France Musique.
به سر جام جمان گه نظر توانی کرد که خاک میکده کهل بصر توانی کرد. مباش بیمه مطرب که زیر طاق سپهر بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد. گل مراد تو آنگه نقاب بکشاید که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد. گدایی در میخانه طرف اکسیری است، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی که سودها کنی ار این سفر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد.
فرانس موزیک Planète Écora. Aliette de la Lune.
Qui peut prétendre faire disparaître une civilisation en une nuit ? Une civilisation des plus anciennes, devenue empire gigantesque, l'un des plus grands que l'histoire n'a peut-être jamais connu, berceau de religions, d'hommes et de femmes libres, civilisation occupée, attaquée, civilisation puissante mais fragile, civilisation riche de ses arts, de sa pensée, de ses textes et poèmes, de sa vieillesse, de son métissage, de sa capacité de résistance et de révolte. En pensée avec les Iraniens et les Iraniennes, restés au cœur de la tempête ou exilés aux quatre coins du monde, la douleur est vive, consolons-nous en musique. Bonjour et bienvenue dans Planète Okora. Je voyageais, je traversais toutes les villes. Nulle part je n'avais vu une telle ville comme celle de l'amour. Au début, je ne savais apprécier la valeur de cette ville. Inexpérimentée, je souffrais beaucoup de l'étranger. Chaque son que j'entendais dans le monde était comme un coup de timbale creux hors du champ de l'amour. C'est la voix de la chanteuse Parissa sur un poème de Rumi qui ouvre notre émission, où nous avons l'honneur de recevoir Aïda Nosrat. Bonjour Aïda.
Bonjour.
Et bienvenue dans cette émission.
Merci beaucoup.
Les poèmes de Rumi, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Est-ce que vous allez souvent les lire ? Est-ce que ça vous inspire au quotidien ou dans votre vie d'artiste ?
Oui, Rumi, c'est un poète qui a un grand impact sur ma vie. Toujours quand j'étais petite jusqu'à maintenant, je lirais les poèmes de Rumi. Pas tout le temps, mais beaucoup. Donc, je vis avec des poèmes de Rumi.
Aïda Nosrat, vous êtes née à Téhéran, vous avez passé une grande partie de votre vie là-bas. Vous avez joué en tant que violoniste dans l'orchestre symphonique de Téhéran. Vous avez aussi été remerciée, virée de cet orchestre. Et puis vous êtes aujourd'hui compositrice, chanteuse. Vous vous êtes installée en France depuis 2015 pour pouvoir chanter. Quand est-ce que vous avez décidé qu'il fallait quitter votre pays ?
J'ai décidé après moi et mon ex qui est aussi un
musicien,
Baba Kamil Mobasher. On avait un groupe qui s'appelle Manouchan en Iran et on a produit notre deuxième album en Iran qui était tellement difficile pour nous parce que on n'avait pas beaucoup d'argent, on n'avait pas de producteur, rien. C'était nous.
Et là, vous chantiez déjà dans cet album ?
Oui, j'ai chanté, mais le problème, c'était qu'on n'a pas sorti cet album en Iran. Parce que la voix des femmes, comme soliste, c'est interdit en Iran. Donc, on a décidé de quitter l'Iran, qui n'était pas facile du tout pour moi et pour lui aussi. Mais pour... devenir une chanteuse professionnelle, c'était le seul moyen que j'avais.
Et depuis la France, vous avez participé à votre manière et loin de votre pays au mouvement de soutien des femmes. Vous avez été active dans le mouvement Femmes, Vie, Liberté notamment. Est-ce que vous avez senti que de pouvoir chanter librement et d'utiliser votre voix librement depuis la France, c'était, j'imagine, important pour vous, mais c'était un acte de résistance aussi.
Oui, en fait, ma vie, pas moi-même, la vie de toutes les femmes iraniennes, je pense que ça peut être une forme de résistance parce que nous, on est... maintenant, c'est mieux, c'est tellement mieux après la révolution Femmes, Vie, Liberté en Iran. Cette révolution a changé beaucoup, beaucoup de conditions pour les femmes. Par exemple, maintenant, les femmes ne portent pas les voiles. Maintenant, elles sont libres dans la rue, mais ça, c'est une liberté très, très petite. On a beaucoup les autres choses, par exemple, la voix des femmes encore, c'est pas libre. C'est encore moitié interdit, moitié libre. Ça dépend de la situation en Iran. Mais moi, personnellement, je vivre ma vie musicale comme je veux. Et c'est un acte de résistance pour moi parce que j'avais pas cette liberté en Iran du tout.
Hey, Negoro, me go sorrow.
Un extrait de l'album Persienne d'Iran avec la voix d'Aïda Nosrat. On retrouve aussi dans cet album les musiciennes Sogol Mirzai, Sorar Khodem, Christine Zayed et Marie-Suzanne Deloy. Aïda Nosrat, ce projet-là de jouer avec des musiciennes iraniennes, palestiniennes, françaises. Oui. Pourquoi vous avez rejoint ce projet? Qu'est-ce qui vous a poussé à dire oui à un tel projet?
Saïd Assadi, notre producteur de label Accord Croisé, il m'a proposé de créer un ensemble traditionnel iranien pour faire un concert au Maroc. Et après ce concert, il m'a proposé que si je l'aime ce projet, je veux continuer ce projet. Je lui ai dit que oui, bien sûr. Mais on a cherché pour créer un son nouveau. Parce qu'on a, dans la musique traditionnelle iranienne, on n'a pas des harmonies beaucoup. Et aussi, on n'a pas, c'est une musique modale. Et on n'a pas la voix de basse. Et aussi, choisi Christine Zayed, c'était Sogol Mirzai qui l'a trouvé, en fait. Christine Zayed. Et on a cet instrument dans la musique iranienne.
Le kanoun.
Ouais. Mais c'est différent, totalement différent de kanoun arabe.
Donc il fallait vraiment recréer quelque chose de nouveau.
Oui,
pas de c'est pas de la musique traditionnelle iranienne.
Non, oui, c'est les titres, la musique, les mélodies, ils sont tous existent. C'est la musique traditionnelle iranienne. Mais on a réarrangé tous les titres avec un nouveau son. Un nouveau ensemble avec Marie-Suzanne sur viol de gamme et Christine Zayed avec le kanoun arabe. Donc ça sent tellement différent que traditionnel iranien.
Et c'est exactement ce que vous proposez avec cet album qui est sorti en début d'année, puisque cet album qui s'appelle Common Roots.
Oui.
Vous chantez, vous jouez du violon et puis vous êtes accompagné par Antoine Girard à l'accordéon et puis par Olivier Kiktef à la guitare.
Oui.
Et c'est pareil, c'est parfois des compositions, mais surtout reprendre des mélodies qui existent et leur donner un peu un nouveau souffle, une nouvelle manière de faire. Ce projet-là, c'est votre projet. C'est la première fois que vous avez un projet vraiment solo, on va dire. Pourquoi cette envie de porter votre voix avec ce projet solo?
Alors, moi, mon passion, c'est dans la musique, c'était encore, ça continue aujourd'hui, de découvrir les ponts entre des cultures et musiques de différents pays. Aussi, moi, je suis née et grandie dans la famille très multiculturelle. Mon père, il a écouté beaucoup de différentes musiques, de classiques occidentales, et musique
jazz azari, iranien,
jazz et les old songs. Aussi, il est peintre aussi, il est artiste. Donc, je suis grandie dans cette atmosphère. Et normalement, naturellement, j'ai envie tout le temps dans ma vie, j'ai cherché pour apprendre les nouvelles techniques de chant, les nouvelles techniques sur mon violon, les nouveaux langues musicales avec des autres cultures et musiques. Donc cet album, pour moi, c'était vraiment common root, c'est les racines communes. Parce que en général, on peut trouver les différends entre les cultures très faciles, mais les trucs qu'on a en
les points commun,
c'est vraiment, pour moi, c'est un acte d'amour dans la musique et dans l'art.
Aïda, vous êtes venue pas avec l'ensemble au complet, mais avec l'accordéoniste Antoine Girard. Et puis, Kevan Chemirani a accepté de venir aussi vous accompagner aujourd'hui. Oui. Vous allez interpréter un extrait de cet album. C'est le titre qui s'appelle Nomade.
Oui.
Les instrumentistes vous attendent. Je vous laisse donc les rejoindre. Ils sont juste derrière moi. Et puis, on vous écoute pour ce titre.
OK. Thank you.
Aïda Nosrat, Kevin Chimirani et Antoine Girard dans les studios de France Musique, un extrait de l'album Common Roots sorti en début d'année au label Accords Croisés.
France Musique, Planète Okora, Aliette Delalleux.
Karne wale
Aïda Nosrat, c'est votre choix musical pour l'émission. Je vous laisse présenter à qui appartient cette belle voix.
Alors, c'est mon ami, très cher ami, qui s'appelle Arooj Aftab. Ce titre, Mourapat, elle a gagné Grammy pour cette... j'ai découvert sa musique il y a 4 ans maintenant, accidentellement. J'étais sur mon téléphone et...
C'était un peu un hasard.
Oui, j'ai écouté sa voix et sa musique. J'ai tombé amoureuse avec sa musique. Et après, on a devenu amis, en fait.
Et c'est une chanteuse qui vient du Pakistan.
Oui, elle est origine de Pakistan, mais elle habite à
New York. On l'entend un petit peu dans sa musique, mais c'est très fin aussi, cette manière de s'imprégner de racines d'un pays, mais en proposant vraiment autre chose, c'est très fort.
Ouais.
Merci beaucoup, parce que c'est aussi une découverte pour moi.
Merci à vous.
D'où vient, vous en parliez tout à l'heure, ce mélange des esthétiques, alors de votre enfance, mais comment ensuite, quand vous créez, que vous chantez, que vous faites de la musique, est-ce que ces pensées que vous prenez dans un univers, est-ce que ça vient naturellement, le fait que tout se mélange, en termes de musique, de son, d'instrument?
Oui, c'est naturellement. En fait, j'ai jamais pensé, OK, je vais mélanger ce type de musique avec comme la musique traditionnelle iranienne ou les ornementations iraniennes dans ma voix avec du jazz, par exemple. Ça vient naturellement. Comme moi, dedans, moi, c'est un truc, c'est une machine de mélange. Mélanger les cultures, donc les différentes techniques différentes. Donc moi, la seule chose que je fais, c'est apprendre les nouvelles techniques. Apprendre les nouvelles techniques, apprendre les nouvelles musiques. Et après, ça, c'est automatiquement, ça vient.
La voix suit après ce qu'elle entend. C'est formidable. On a envie d'avoir cette machine-là. J'avais aussi une proposition d'écoute à vous faire après votre magnifique choix musical. Peut-être que vous allez reconnaître cette voix. En tout cas, on part sur une autre esthétique qui me touche particulièrement. Voici une voix féminine dans Planète Okora.
Lucky me there. marroni tra del matecciore. Metecciore, la che mette gelem gelem lungo nedormenza maladine sciucare romenza gelem gelem
La voix déchirante d'Esma Redjepova, la reine des gitanes, des tziganes. Ouais. Aïda, je pense que je ne vous fais pas découvrir ce titre et cette voix, mais j'ai trouvé un lien assez direct, déjà avec la présence de l'accordéon, et puis de cette puissance émotionnelle dans la voix. Est-ce que vous avez envie de dire un mot sur Esma ?
Oui, Esma. J'ai écouté ce titre sans savoir son nom, en fait, quand j'étais... J'avais 22 ans, peut-être, en Iran. Et je ne sais pas que ce titre, il était existant dans ce film de Tony Gatliff. Et je suis tombée amoureuse de la musique gitane depuis cette année.
Je comprends.
Ouais. Mais ce film de Tony Gatliff, La Chautrome... Le voyage des gypsies, des gitanes, de Rajasthan jusqu'à la France. Et c'était incroyable pour moi. C'est vraiment un point fort de ma vie musicale.
Merci beaucoup, Aïda. Comme vous êtes venue en studio avec Kevan Chemirani, on profite pour dire un petit mot peut-être. Kevan, bonjour, bienvenue.
Bonjour, comment ça va, Aliette ?
Bah, ça va, depuis la dernière fois. Ouais. J'avais envie de vous inviter à la table parce qu'on a parlé de la situation en Iran. C'est un pays que vous avez connu. Vous êtes attaché à ce pays-là. Est-ce que vous auriez un mot, une réaction par rapport à la situation aujourd'hui ?
Un mot, c'est court, mais beaucoup de tristesse, beaucoup de colère aussi ouais. de la manière dont le monde va et comment les choses sont réglées ou pas réglées, au contraire, s'empirent. Tout est fait pour que tout aille de catastrophe en catastrophe et on ne voit pas beaucoup de lumière, on ne voit pas beaucoup d'espoir. Et ce peuple incroyable, mais bon, le peuple iranien incroyable, mais pas plus, pas moins que tous les autres peuples, hein, de fait. Mais effectivement, ça me touche peut-être particulièrement plus. J'ai des origines iraniennes, je suis intimement lié à cette culture, via la musique, via les poèmes, évidemment. Et j'aime beaucoup les Iraniens en général, l'humour qu'ils ont, leur gentillesse. Beaucoup de gens qui ont voyagé en Iran, peu de gens le savent en France, mais les Français et les Occidentaux qui partent en Iran, généralement tombent amoureux de ce pays et ouais. des gens là-bas. Parce qu'il y a quelque chose de spécial, une attention portée aux autres, une délicatesse qui est extraordinaire. Donc oui, je souffre beaucoup, je suis très triste.
Est-ce que la lueur d'espoir, je ne sais pas si on peut parler d'espoir, mais en tout cas une lueur peut quand même se retrouver dans le fait de continuer à pouvoir faire de la musique, à créer avec les autres, à mélanger les cultures, tout ce qu'on dit depuis le début de cette émission.
Alors c'est vrai, je suis peut-être un indécrottable optimiste d'une certaine manière, mais je pense toujours que l'amour triomphe.
Oui.
Je pense que rien ne peut empêcher les gens de s'aimer, quelle que soit leur culture, leur religion, les différences qu'on a tous. Rien n'est plus fort que ça, rien n'est plus beau, et il faut continuer à célébrer l'autre, découvrir l'autre, se découvrir soi-même, et aimer les autres, donner de l'amour, prendre de l'amour. Évidemment, aujourd'hui, dans cette période où tout se referme, les gens se referment sur eux-mêmes, et c'est extraordinaire, on a ce privilège, nous, en tant qu'artistes, de pouvoir être sur scène, et de sentir ce besoin du public et de nous-mêmes, d'avoir cette communion tous ensemble. Oui, on a cette chance et il faut arroser ce jardin et il faut le soigner.
Mmh. Kevin Shemirani, vous avez sorti un album il n'y a pas longtemps qui s'appelle Tales on Nar. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler, d'en diffuser des extraits. En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui, d'avoir accompagné la voix d'Aïda avec le Zarb. Et j'espère à très bientôt.
Oui, merci beaucoup, Aliette. Moi, c'est toujours une immense fierté et un grand, grand plaisir d'être auprès d'Aïda Nosrat. J'ai une admiration infinie pour elle, pour son travail, pour son humanité et pour son incroyable... L'émotion qu'elle transmet et qu'elle me transmet quand elle chante, c'est quelque chose... Je suis très, très heureux. C'est une rencontre extraordinaire pour moi.
Merci beaucoup.
d'avoir rencontré Aïda.
C'est pareil de moi aussi. Toujours.
Vous avez fait ça. Pas ouais. mal de projets ensemble. On mettra oui. plus d'informations sur la page de l'émission pour que les auditeurs et auditrices puissent aller écouter, découvrir aussi vos projets communs. Aïda Nosra, on va bientôt se quitter, mais avant... On va avoir encore un peu de musique avec okay. Antoine Girard, c'est Lai Lai. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce titre ?
Alors, Lai Lai, c'est une berceuse kurde dans la frontière d'Iran. Ça a écrit et créé avec Mazhar Khaleri. C'était un musicien kurde d'Iran. Et on a, avec Antoine, on a réarrangé ce titre avec l'accordéon et la voix.
Aïda, Antoine, je vous laisse vous installer et puis on okay. vous écoute.
Thank you.
Une berceuse kurde interprétée en studio par Aïda Nosrat, accompagnée à l'accordéon par Antoine Girard. Cet extrait de cet album sorti en début d'année, Common Roots, avec Antoine Girard, Olivier Kiktef à la guitare et sur quelques titres, le percussionniste Nahib Shanbezadeh. Un disque sorti au label Accords Croisés. Aïda Nosrat était notre invitée du jour. Et après la berceuse vient la danse. C'est le sujet de notre reportage autour de l'histoire des bals à Paris. Un reportage signé Flore Caron.
Okora, le reportage.
Mazurka 1, 2, 3. Mazurka 1, 2, 3. Donc maintenant, vous savez faire Mazurka 1, 2, 3. On change l'ordre. Et on fait Mazurka 1, 2, 3.
Nous sommes à Paris, un dimanche après-midi. 250 danseurs et danseuses font claquer leurs talons sur le parquet du Pan Piper, une salle du 11e arrondissement.
Alors bonjour, moi c'est Julien Vizère, je suis coordinateur de l'association Paris Bal Folk. C'est le 19e bal qu'on organise ici depuis qu'on vient dans ce lieu, depuis 3 ans et demi. Il y a toujours un atelier de 2 heures sur une thématique précise de danse et une initiation qui se passe dans le hall d'accueil qui permet vraiment aux gens qui viennent pour une première fois d'être accueillis pour avoir les principales règles du bal et puis aussi évidemment quelques danses qui vont avec. Et ensuite on danse de 14h à 20h et on se quitte bien fatigué à 20h, les jambes et l'esprit bien réconfortés.
Bonjour. Voilà. Eh ben, je vais ouvrir le bal. Et bonsoir à toutes et à tous. Donc, le Duo Hortense, on vient vous faire un bal d'Auvergne. Et on va commencer tout de suite avec la danse reine en Auvergne, en place pour des bourrées à 3 temps.
Actuellement, à Paris, il y a une bonne communauté de danseurs et de danseuses. Et il y a, c'est assez actif au niveau du bal folk. Intramuros, il y a 2-3 associations actives. Et ensuite, en périphérie, il y en a pas mal aussi. Quoi. Il y a tout autour de Paris, plus ou moins loin, en banlieue de Paris, il y a des associations qui organisent du bal folk. Quand on a commencé à organiser avec Paris Bal Folk, en 2015-2016, on remplissait un petit bar hebdomadairement et aujourd'hui on est à faire des événements mensuels avec 250 personnes qui sont toujours complets. En 10 ans, là on a vraiment senti qu'il y avait de plus en plus de personnes intéressées par ça, à l'échelle parisienne et aussi à l'échelle française. Quand on voit le nombre d'événements qui sont organisés aujourd'hui par rapport à quand j'ai commencé à danser il y a 10 ans, ça, oui, il y a un engouement et de plus en plus de gens qui y viennent et à différents niveaux. Quoi.
La prochaine Scottish, on la fait ensemble.
Bonjour, moi c'est Meiling Jussom, j'ai 26 ans.
Depuis quand vous dansez ?
Je danse depuis 2019. J'ai dansé à Aix, j'ai fait Gentine, j'ai fait Châteauroux. J'ai aussi organisé avec des copains et des copines un bal au Lila, enfin 2 bals, et on est sur l'organisation d'un 3e qui s'appelle Le Balcon. Et l'association c'est Balèze 93. On voulait créer quelque chose près de chez nous. C'était assez chouette.
Je me prénomme Martin, je suis danseur folk et breton, chanteur aussi et musicien éventuellement. Pour moi, c'est l'âge d'or du bal folk en ce moment à Paris depuis une petite dizaine d'années. Alors qu'il y a une époque, il y a 30 ans, c'était un bal mensuel à Paris intramuros. Voilà, c'était carrément moribond même. Il n'y avait que la bourrache qui se maintenait. Mais voilà, c'était pas grand-chose. Et là, c'est quand même beaucoup plus, c'est au moins un par semaine au Dorothy, à peu près un par mois par Paris Bal Folk. Que ce soit ici ou au Dorothy, il y a beaucoup de jeunes qui découvrent. Il y a 15 ans, on se plaignait qu'il n'y ait pas assez de monde, on craignait que ça ne se renouvelle pas, et moi je trouve ça très bien que ça se renouvelle. ça sort du cliché d'une musique ringarde et danse ringarde et tout ça. Quoi.
C'est en 1969 que le tout premier bal folk voit le jour à Paris dans un contexte post-68art. Il s'appelle Le Bourdon et on y joue les musiques collectées un peu partout en France. Dans l'émission Couleurs du monde en 2009, Philippe Krum, rédacteur en chef du Trad Magazine, revient sur la genèse de ce mouvement.
Un des pères des musiques folk en France, c'est Hugo Frey. Hugo Frey, pourquoi ? Le premier qui traduit Bob Dylan et le premier qui joue avec ce qu'il appelle son skiffle group, dans lequel on entend des mandolines américaines, donc pas le son de la mandoline italienne, des styles de violon qu'on ne connaissait pas, violon américain, bluegrass, country. Et ça va faire réagir des gens qui vont tomber amoureux de ces instruments et qui vont se mettre à en jouer. Et là, des groupes vont se créer et ils créent un folk club qui, au départ, de mémoire, c'était vers Saint-Germain, qui va s'appeler le TMS, le Traditional Mountain Sound, où tous ces gens-là vont se retrouver et vont faire de la musique américaine. Et il faudra attendre une nouvelle vague qui, au début, a joué américain, mais quelqu'un comme John Wright, qui va en gros dire « Mais pourquoi vous ne jouez pas de la musique française ?» Et tous les gens à l'époque ont dit « Bah, parce qu'il n'y en a pas !» Et lui dit « Mais si, il y en a !» On a commencé à écouter des gens comme la mère Recher, Madame Recher, qui était une vieille chanteuse auvergnate, et puis des gens comme Jean-François Dutertre, Jean-Loup Bally, la famille Benaïm, tous ces gens-là vont se mettre à découvrir les musiques traditionnelles françaises. Et du coup, en réaction, folk club très important, parce que c'était la culture anglo-saxonne, hein, en Angleterre, entre autres, il y avait des folk clubs dans chaque pub, va se créer un folk club à Paris qui va s'appeler le Bourdon, et des gens autour de Jean Blanchard et d'autres vont créer la Chanterelle à Lyon. Donc il va y avoir deux pôles très très importants, avec, on va dire, Mélusine d'un côté, La Bamboche de l'autre, et puis je pourrais en citer plein, des groupes qui vont se créer et qui vont se mettre à jouer des instruments traditionnels.
On crée le Bourdon. On avait envie qu'il y ait un lieu dans Paris où on puisse se réunir pour faire uniquement des musiques traditionnelles et fortement axées sur la France.
Catherine Perrier, musicienne.
On avait aussi déjà en vue les musiques du monde. Le premier tract du Bourdon porte musique traditionnelle, populaire, folklorique. Déjà on mettait plusieurs termes à la suite. Et j'avais voulu mettre ethnique. Et puis, c'était trop audacieux. À l'époque, ça aurait fait pédant.
Remontons encore un peu le temps au 19e siècle. Impossible de parler du bal à Paris sans évoquer le bal musette, l'un des emblèmes de la capitale. Musette, c'est le nom de cette petite cornemuse que l'on retrouve en Auvergne. Agnès Unterberger est doctorante au Centre d'Histoire Sociale des Mondes Contemporains.
Alors le bal musette, c'est vrai que c'est surtout associé à Paris et à la communauté auvergnate, donc les immigrés d'Auvergne au sens large dans la capitale, qui ont aussi développé une certaine forme de loisir de bal.
Est-ce qu'il y a une période phare du bal musette à Paris ?
Alors c'est vrai qu'à la fin du 19e siècle, le bal musette est un loisir très prisé, plutôt dans les catégories populaires, les ouvriers, les petits commerçants. Mais c'est vrai qu'aussi dans l'entre-deux-guerres, ensuite, il y aura une augmentation de ces bals musettes qui ne gardent pas forcément ce caractère, on va dire, auvergnat, mais qui augmentent en nombre.
Et quand vous dites que ce qui ne garde pas l'esprit auvergnat, c'est notamment parce qu'on change d'instrumentarium.
Alors, c'est vrai que les instruments évoluent. Donc, à la fin du 19e siècle, il y a beaucoup d'Italiens qui arrivent à Paris et qui apportent aussi avec eux l'accordéon chromatique qui, au fur et à mesure, va prendre un peu le dessus dans les bals.
Tiennet Simonin, accordéoniste.
Et après, dans l'entre-deux-guerres, bal musette, ça va désigner un bal populaire dans une salle de petite taille avec un accordéoniste, bal acoustique, avec un répertoire particulier qui n'est plus celui qui était joué par les Auvergnats de Paris. Et donc on pense à la java, au foxtrot, au passo-doble, la valse musette bien sûr.
En fait, ça devient un bal parisien.
Le bal musette, c'est le bal typiquement parisien. C'est le bal tel qu'on se le représente à l'étranger. Les touristes, quand ils viennent à Paris, ils ont en tête cette musique-là, le musette. Ils veulent voir du bal musette. C'est ce qui n'existe plus depuis 100 ans.
Et en place pour des Scottish, des nouvelles Scottish. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais on est très heureux de venir jouer ce soir.
Et est-ce qu'on peut faire des ponts entre ces bals du milieu du XXe siècle et ceux d'aujourd'hui ?
Les ponts qu'on peut faire entre ces deux formes de bals, c'est au niveau du répertoire. Que jouent les Auvergnats au début du XXe siècle ? Ils jouent des bourrées, des valses, des mazurkas, des scottiches. Ça, ce sont des danses qu'on va retrouver dans les bals folk actuels. On va les retrouver aussi dans des bals qu'on dit plus trades. Il y a les deux qui se côtoient aujourd'hui encore. Il y a les bals folk qui sont vraiment un répertoire généraliste et les bals trad qui vont être axés sur une région en particulier. Le bal folk actuel va aller chercher des éléments du bal musette, mais le bal musette d'avant 14, mais certainement pas de lien direct avec le bal musette de l'entre-deux-guerres. D'ailleurs, les danses de l'entre-deux-guerres ne sont pas présentes en bal folk. On n'a pas de foxtrot, de java, de paso doble ou de tango.
Dimanche dernier, Paris Bal Folk organisait son tout dernier bal au Pan Piper. La salle a mis fin à sa collaboration avec l'association qui est donc à la recherche d'un nouveau lieu. Prochain rendez-vous les 1er, 2 et 3 mai pour le festival La Bamboche de Printemps dans le 20e arrondissement de Paris.
France Musique, Planète Okora, Aliette Delalleux.
C'est la fin de cette émission. Merci à Max James pour la réalisation, à la prise de son, à la technique. Aujourd'hui, c'était Jean-Louis Deloncle et Gilles Gaillard. Maud Nourry à la préparation. On se quitte en musique avec un extrait de cet album Common Roots avec la voix d'Aïda Nosrat. Ici, elle est accompagnée par Antoine Girard à l'accordéon et Olivier Kiktef au bouzouki.
پی تو سرگردانم، شبی کنار چشم پیدا شد، میان عشق من چو گل وام شد. تو ای پری کجایی که رو
France Musique.